Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bon, on vient d'écouter Catherine Ribeiro, Paix 86. Pourquoi on l'a écoutée? Parce qu'elle ouvre le livre La guerre contre les femmes contre la guerre. Mais elle ouvre aussi l'émission Femmes libres sur Radio Libertaire. Et l'émission a été ouverte en mai 86. Et c'est pourquoi Nelly Trumel avait choisi cette chanson. Parce que Nelly Trumel était une antimilitariste convaincue, en plus d'être féministe et anarchiste, bien sûr.
Voilà, vous venez d'entendre notre invitée Hélène Hernandez, et on va présenter un peu plus longuement le livre après que je fasse la petite lecture habituelle que vous retrouvez aussi sur le site de notre émission, Trou Noir. Vous faites Trou Noir Radio Libertaire, donc à partir de demain, vous aurez l'émission, et donc vous aurez aussi la lecture de ce petit texte rapide. Et en plus, ça tombe bien que tu parles de Nelly, parce que j'ai prévu aussi qu'on... Je ne veux pas dire que c'est un hommage, mais ça me fait plaisir qu'il y ait des textes dans ce livre, et on en a pris quelques-uns. Tu vas pouvoir en parler un peu plus tard. Voilà. Donc, rapidement, bon, j'excuse. Enfin, je n'ai pas à l'excuser, d'ailleurs. Il travaille. Nicolas n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je crois que j'avais déjà prévenu lundi dernier. Je crois qu'il sera là d'ici 3 semaines à peu près. Il est en tournage du côté de Camargue. Alors, moi qui suis mauvais ange, je dis qu'il est en vacances, mais je crois qu'il travaille, en fait. Voilà, donc, une annonce rapide, et puis on va échanger avec notre invité. Refuser de prêter ma voix pour justifier la guerre, excepté celle de tous les peuples contre leurs despotes exploiteurs, la révolution sociale, écrit Emma Goldman en mars 1917 dans le manuel anarchiste, Mother S. Donc ça, on va en parler aussi un peu plus en détail par la suite. Un siècle plus tard, des collectifs de femmes russes réagissent à l'invasion de l'Ukraine. Nous sommes l'opposition à la guerre, au patriarcat, à l'autoritarisme et au militarisme. Ces textes figurent dans le livre publié récemment aux éditions du Monde Libertaire, « La guerre contre les femmes contre la guerre » d'Hélène Hernandez, donc notre invitée aujourd'hui. Beaucoup d'autres sont issus du Monde Libertaire ou du périodique Casserole. On dit casserole ou casserole? Comme on veut.
Ben, ça dépend d'où ouais. On est. Hein. Ouais. On a des accents pointus ou pas.
Non, mais c'est pour casser.
C'est pour casser les rôles.
Ben, j'ai bien compris. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit plutôt casserole, parce que sinon, à l'écoute, t'entends casserole. Ouais, ils ont appelé ça casserole. Pourquoi ils ont appelé ça casserole? Je pense que casserole, c'est mieux. Enfin bon, comme ça, à l'oral. Hein. Si on a le journal sous les yeux, bon, on voit tout de suite. Bien, donc, ils sont issus d'articles du Monde Libertaire, du période casserole. Ou de l'émission hebdomadaire Femmes libres sur Radio Libertaire. Ou est d'ailleurs, parce que parfois c'est des invités et ça donne lieu à un article. L'actualité médiatique centrée sur Gaza et l'Ukraine ne doit pas nous faire oublier des dizaines d'autres guerres au cœur desquelles les populations civiles dont les femmes sont victimes. Elles luttent et résistent contre gouvernements, talibans, mollahs, fous de pouvoir et fous de Dieu qui arrêtent, emprisonnent, violent, torturent, assassinent, esclavagisent. On peut malheureusement même des petits points d'ailleurs. Le Rojava, au cœur du Sistan, le mouvement Femmes vie liberté en Iran sont évoqués dans ce livre, mais aussi bien dans bien d'autres régions du monde. Le dernier texte est intitulé « Sonder les ténèbres qui font d'un bébé un assassin ». Phrase de la femme d'un journaliste arménien assassiné en Turquie, pays ultramilitariste, où la violence quotidienne est entretenue par le dressage, la dépersonnalisation des jeunes recrues. Et avec tout ce que ça implique, hein, c'est moi qui rajoute. Et de toute façon, on va en parler aussi de la Turquie, voilà. Bon, enfin, c'était un petit panorama. Bien sûr, ce livre parle de beaucoup d'endroits, et y compris à des périodes un peu différentes. Peut-être juste avant que tu nous dises comment il est un peu structuré, comment tu l'as conçu, puisqu'il est en 3 parties, quand même la couverture, tu peux nous en parler un petit peu. Elle est bien, quoi, par rapport au sujet en plus.
D'emblée, quand j'ai pensé à ce livre, La guerre contre les femmes contre la guerre, je me suis dit, il faut que j'aille voir Tardi. Vraiment, j'ai... Puis on n'ose pas, on se dit quand même, voilà.
Bon, quand même, tu le connais un peu.
Oui, oui. Alors j'y suis allée, j'étais hyper bien accueillie, à la fois par Dominique Grange et puis par Jacques Tardy. C'est Dominique Grange qui a fait le choix finalement de l'extrait d'un album, hein, de Tardy. Et c'est intéressant, le dessin, parce que il court de la première de couverture jusqu'à la quatrième de couverture. Hein. Alors, on voit une femme pieds nus dans la boue qui est en train de pousser une brouette avec deux enfants qui sont dans la brouette, et puis évidemment la désolation tout à fait autour. Et franchement, ça allait très très bien. Parce que Tardi n'a pas dessiné beaucoup de femmes. Mmh. Et là, évidemment, ça se passe pendant la guerre de 14. Hein, c'est un dessin de la guerre de 14. Mais de toute façon, les guerres, que ce soit en 1914 ou en 2025, c'est toujours les guerres. Et c'est toujours les mêmes conséquences. Hein. Et donc, ce dessin-là, vraiment... bon, il m'a plu d'emblée. Après, on a calculé par rapport au dessin, oui. Quelle couleur on allait mettre autour, comment on allait faire, oui. Voilà. Et ça, c'est le travail d'Holt, qui a fait
qui
la
nous
couverture.
Fait pas mal de couvertures dans cette collection.
Hein. Ouais, ouais. Voilà, j'ai eu carte blanche pour l'ensemble du livre, hein, je dois dire. C'est Boubiche qui m'a fait la demande d'écrire un livre à partir des articles que j'avais fait dans Le Monde Libertaire. J'avais jamais fait ce genre de choses. J'ai écrit d'autres livres, que ce soit professionnel ou que ce soit militant, mais j'avais jamais fait ce genre de travail. Et j'ai dit oui. Et après, je me suis dit, mais comment je vais m'y prendre? Alors, j'ai relu 3 fois tous mes articles. Et puis, j'en ai choisi quelques-uns parce que, évidemment, j'en ai écrit plus que ça. Et j'ai essayé après de les thématiser et d'en faire des chapitres et 3 chapitres pour correspondre déjà à 2 chapitres. La guerre contre les femmes, ça c'est un chapitre. Les femmes contre la guerre, c'est un autre chapitre. Et le premier chapitre, c'est pour bien remettre sans aller trop loin, mais de remettre au moins dans l'histoire. La question des femmes, elle est souvent invisibilisée, cette question-là, mais elle est prégnante dans toutes les guerres, quoi. Voilà. Donc, la partie historique, que ce soit la guerre de 14 avec Emma Goldman, ou que ce soit la guerre de l'ex-Yougoslavie avec le texte de Nelly Trumel, ça me semblait indispensable de les mettre.
Mmh. Oui, oui. En fait, c'est curieux, parce que je travaille sur un autre livre dont on va parler lundi prochain. Et en fait, effectivement, il y a, par rapport aux femmes dans les guerres, il y a souvent un biais, quoi. Je ne veux pas non plus dire que c'est exagéré, mais souvent on en parle peu. Alors on en parle éventuellement sur l'aspect victime, mais il y a aussi des femmes qui luttent dans cette période, qui font des tas de choses, et il y a souvent un biais qui fait qu'on en parle beaucoup moins. Je ne dis pas du tout que c'est une conjuration, et dans le livre dont on parlera, là, il s'agira de l'Espagne. En fait, la part des femmes qu'elles ont eu réellement, notamment dans cette période-là, de lutte, est bien inférieure dans l'historiographie, dans la réalité. Je fais un peu le parallèle, c'est pas pour faire de la pub pour l'un de vos chers, mais on retrouve la même chose. Et donc ce livre a l'avantage notamment de redonner la parole justement à beaucoup de femmes, y compris, comme tu l'as dit, sur l'aspect par rapport à que d'aujourd'hui, parce que les guerres, c'est d'actualité, mais malheureusement c'est toujours d'actualité, quoi. C'est ça qui est affolant, et c'est de pire en pire. Et c'est, en plus, tu disais que c'est un retour de la même chose, mais je crois que c'est encore pire maintenant, parce que c'est de plus en plus dans les guerres, c'est les civils, donc les femmes, les enfants, etc., qui subissent de plus en plus. Alors bon, je peux pas dire, je plains pas les soldats qui sont morts, mais la proportion de civils augmente énormément avec les moyens maintenant qu'il y a, quoi. Ouais. Donc c'était
mais important. j'avais déjà traité ça dans le livre Celle de 14, hein, puisque le titre c'était La situation des femmes pendant la grande boucherie, et j'avais repris la phrase de Michel Perrault qui dit: les femmes sont les grandes oubliées des guerres. Celle de 14 comme des guerres précédentes ou des suivantes, hein, le silence est là comme ailleurs, porteur d'inégalités, hein. Et dans celle de 14, je terminais aussi par Non, la Première Guerre mondiale n'a pas libéré les femmes, même si on les a recrutées dans l'industrie, mais on les a recrutées aussi dans l'industrie, malheureusement, d'armement. Hein, voilà. Mais de toute façon, ça ne les a pas libérées, puisque juste après la Première Guerre mondiale, il y a eu les deux lois scélérates, 1920-1923, et qui interdisaient avortement, contraception, de manière à ce que toute la population contribue à faire des mômes parce qu'il y avait eu tellement de morts qu'il fallait compenser ça. On se retrouve dans la même situation avec Macron aujourd'hui, hein, les vœux de 2024, je crois, c'était ça, où il nous, parlait de réarmement démographique. On est toujours dans la même, dans la même idée que on n'aurait pas assez de chair à canon, ni de chair à patron d'ailleurs. Hein. Mais comme on ne veut pas aller chercher la chair à patron dans les autres pays, bien que quand on les fait venir, on les paye moins cher. Hein. Mais de toute façon, c'est toujours ça. C'est de la chair. Alors, chair à patron, chair à canon, puis chair à loisir aussi avec la prostitution. Hein. Voilà. De toute façon, il faut faire des enfants. Or, les femmes, c'est pas que ça. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut. D'autant qu'aujourd'hui, les femmes font beaucoup moins d'enfants qu'avant, beaucoup moins, et dans tous les pays du monde. Voilà, et c'est parce que les situations sont extrêmement difficiles pour élever des enfants, où les logements sont trop petits, où les salaires sont pas à hauteur, où on est en plein milieu de la guerre, où c'est la crise de l'eau. Enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles, eh bien, les couples, c'est pas que les femmes, hein, mais les couples font beaucoup moins d'enfants, et du coup ça pèse moins aussi sur les femmes.
Oui, bien sûr. Oui. Bon, alors je propose, c'est vrai qu'on pourrait échanger, non, il y a énormément de choses, mais bon, comme on va quand même en fait, on a envie que les gens qui nous écoutent lisent ce livre. On a échangé avec Hélène, on lui a proposé un certain nombre de textes qui ne sont qu'une partie. Donc évidemment, on ne va pas aller dans le détail. Donc dans la première partie, là, qui est donc un peu... Je crois que le sous-titre, c'est un antimilitariste ancré dans l'histoire de mémoire. Je lui avais proposé, donc on parle de deux choses. Donc, d'une part, de deux personnes. D'une part, d'Emma Goldman. Donc, si tu peux situer déjà la période de ce texte, que je crois que c'est qu'elle reconnaîtrait, qui est magnifique, parce que, Emma Goldman, c'est pas n'importe qui. Tu peux en parler quelques instants, et puis aussi du contenu de ce texte. Oui. Et après, on rendra un petit hommage à une émotion que j'ai bien connue aussi, Nelly Trumel. Voilà.
Alors, Emma Goldman, je crois que beaucoup le savent, hein, elle a quitté la Russie pour rejoindre sa sœur. Elle avait à peine 16 ans, hein, pour arriver aux États-Unis. Et là, elle a fait des petits boulots de merde, hein, franchement, pour survivre. Mais comme tous les immigrés qui arrivaient... Les États-Unis n'ont jamais été réellement l'Eldorado, hein, quand même, pour la classe ouvrière, en tout cas. Et c'est aussi une période de l'histoire où il y avait énormément d'Européens qui partaient, croyant faire fortune, parce que c'était, que ce soit en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en France, il y avait une pauvreté très, très importante. On est à la fin du 19e siècle et Emma Goldman, s'est fait remarquer très vite dans sa capacité militante et particulièrement pour prendre la parole dans les meetings et tout ça. Bon, je ne veux pas raconter l'histoire d'Emma Goldman parce que là, on en a pour des heures. Mais le texte qui s'appelle « Les promoteurs de la folie de la guerre », d'abord c'est un titre qui dit bien ce que ça veut dire, hein. Ce texte, il date de mars 1917. Or, le Congrès américain n'a pas encore voté le départ de ces soldats vers l'Europe, hein, n'est pas rentré encore en guerre. C'est la période aussi, faut se souvenir, il y a un balancier mondial. La Russie va se retirer de la guerre et ce sont les États-Unis qui vont y arriver. Hein. La Russie pour d'autres raisons, bien sûr, parce qu'elle a une révolution à faire. Qu'elle fera pas, franchement, mais en tout cas, elle est dans un moment révolutionnaire. Et le Congrès américain voit dans cet appel à la guerre, évidemment, c'est ce que nous dit Emma Goldman, pas des possibilités de se faire du fric, hein, comme toujours. Voilà. Qui c'est qui part à la guerre? C'est toujours les pauvres. C'est toujours. Et là, il faut reconnaître que, y compris les Noirs, hein, qui partaient à la guerre, pour les Européens, ben, ils voyaient arriver des soldats noirs. Ils s'y attendaient pas vraiment. Hein. Il y avait des blancs, des noirs, voilà. Mais il y avait. C'était les pauvres. Les pauvres. Alors, c'est les pauvres qui partent à la guerre, et ça induit, et c'est ce que s'explique Emma Goldman, ça induit aussi une pauvreté au niveau des États-Unis pour cette population pauvre. Parce que va falloir fournir l'effort de guerre, donc il y a des impôts qui vont être prélevés pour faire partir ces soldats, et c'est sur le monde du travail qu'on vient prendre l'argent. Hein. Voilà. Et du coup, je trouve que le texte d'Emma Goldman, franchement, elle dit tout dans son texte. Mmh. Elle dit tout et elle oublie même pas les femmes. Hein. Elle en parle aussi, des femmes et des enfants. Hein. Donc, voilà, je pense que c'était un texte à mettre tout de suite. Et quand elle dit à la fin de son texte que de pour ma part... Hein, c'est Emma Goldman qui parle là. Je parlerai contre la guerre jusqu'à mon dernier souffle, avant et pendant la guerre. Je mourrai un millier de fois en appelant le peuple d'Amérique à refuser d'obéir, à refuser le service militaire, à refuser d'assassiner leurs frères, plutôt que de prêter ma voix pour justifier la guerre, excepté celle de tous les peuples contre leurs despotes et exploiteurs, la révolution sociale. Donc elle fait la différence entre la guerre des riches et la guerre qui serait pour se défendre. Et d'ailleurs, elle le montrera, puisqu'on la verra en Espagne y aller soutenir. Hein, voilà. Mais elle dit aussi autre chose dans son texte qui me semble important de rappeler. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des milliers, des milliers, des milliers d'Européens qui sont partis aux États-Unis. C'est que on avait des Allemands, on avait des Autrichiens, ceux qui ont lancé la guerre de 14-18 contre la France, hein, voilà. Et on avait le même peuple là-bas aux États-Unis. Oui, donc ça serait des Allemands qui viendraient lutter, des Allemands immigrés qui viendraient lutter en France pour défendre la France contre les Allemands. Il y a quelque chose d'absurde, quoi. Et c'est pour ça qu'elle parle de la folie aussi.
Écoute, je propose une pause musicale parce que je pense que Nelly Trumel mérite qu'on ait le temps un petit peu de parler d'elle. Donc, on parlera d'elle, oui, mais après cette pause musicale, Monique, que je crois que tu as.
Acceptez que le temps creuse les vallées. Acceptez que les sentiers soient détournés. Acceptez que les anciens soient effacés. Acceptez de sans cesse recommencer. Exploser des richesses de nos cités. Exploser quand il y a tant de pauvreté. Exploser des mots dont on meurt allumé. Exploser quand on guérit de nos contrées. Refuser qu'un peuple soit exterminé. Refuser liberté, refuser le mensonge et l'absurdité, refuser de se laisser manipuler. Accepter de ralentir en bout de vie, accepter que les papilles perdent l'esprit, exploser que de terribles maladies, exploser touchent les jeunes et les gentils. Accepter de vivre encore après ta mort, accepter d'en aimer un autre aussi fort, refuser la haine pour un désaccord, refuser de trahir pour un lingot d'or. Exploser de vivre en quartier et de partout, exploser des tapés trois, des guanadou, refuser et taper mon cul, c'est plus doux, refuser de se prosterner à genoux. Accepter un jour de détacher les liens, accepter de prendre chacun son chemin, accepter de grandir avec le chagrin, accepter de pouvoir n'y comprendre rien. Exploser que l'homme est pourri, mer et terre, exploser qu'il continue dans l'atmosphère, exploser que l'argent gouverne la terre, exploser que des enfants fassent la guerre. Refuser de mijoter dans nos cocons, refuser de somnoler à nos balcons, refuser loin des bourrasques et des flocons, refuser enfin d'être pris pour des cons. Accepter que le temps creuse les vallées, accepter que les sentiers soient détournés, accepter que les anciens soient effacés, accepter de sans cesse recommencer, 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 recommencer.
Refuser, c'était Nathalie Solence. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Donc Hélène, qu'est-ce qu'on vient d'entendre comme chanson ?
Eh ben voilà, Nathalie Solence, parce que je l'ai choisie parce que ce refus de tuer, je crois que c'est important. Puis elle le dit bien, quand on tue aussi des enfants, quoi. Ouais. Hein, voilà.
D'accord, donc Nelly Trumaine, parle-nous déjà de Nelly, même pas indépendamment des textes, mais quand même, c'est pas n'importe qui.
Nelly. Alors, Nelly Trumaine, c'est elle qui a créé l'émission Femmes Libres en mai 1986 par rapport au cinquantenaire de la Révolution espagnole. Elle a commencé par lire le texte de Marie Nash sur les femmes libres, Mores Libres. Et à partir de là, bah, des amis féministes lui ont dit, tu sais, tu pourrais aussi parler d'autres choses, parce qu'il se passe des choses sur la place de Paris et puis même ailleurs, quoi. Donc elle a petit à petit eu des invités, pas n'importe lesquels, que ce soit Michel Perrault, que ce soit Geneviève Fraisse, enfin voilà, des invités qui avaient des choses particulières à dire, même si elles sont pas anarchistes, qui avaient des choses particulières à dire, très importantes sur Radio Libertaire, voilà. Donc Nelly, elle a imprégné une émission de féministes dans une radio donc ça va faire bientôt 40 ans, ça fait 39 ans hein, qu'elle a tenu et que nous avons tenu ensuite cette émission, et je trouve que c'est bien, quoi, que le mouvement anarchiste et la fédération anarchiste est maintenu cette émission. Et maintenant, il y en a une deuxième, le mardi, entre 12h30 et 14h30, voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de radios qui peuvent s'enorgueillir d'avoir 4 heures d'émissions féministes par semaine. Voilà, Nelly, c'est elle qui nous a donné cette fibre. Alors, moi, j'étais déjà féministe, hein, c'est pas ça le problème. Mais d'aller faire de la radio, voilà, j'y suis allée. Elle m'a invitée très, très, très vite parce que j'étais investie au niveau syndical et au niveau féminisme. Et puis, elle m'a donné envie de faire de la radio. Donc, le texte là que j'ai choisi, c'est viol et sévices sexuels en ex-Yougoslavie, la guerre contre les femmes. C'est son titre, hein. Et c'était paru dans. Alors, Le Monde Libertaire était hebdomadaire à l'époque, donc dans le numéro 907 du 25 au 31 mars 1993. Il y avait à l'époque un meeting sur l'ex-Yougoslavie. Le 12 février 1993, qui avait été organisé par l'Union régionale parisienne de la Fédération anarchiste, et c'est ce texte qu'elle avait lu, et après qui est paru dans le Monde Libertaire. Pourquoi ce texte, je l'ai choisi? Parce que ça parle de l'ex-Yougoslavie, et que ça a été un des conflits où les féministes et les anarchistes ont été extrêmement présents. Je ne sais pas si tu te souviens, Serge, mais on défilait, j'ai l'impression, même deux fois par semaine dans la rue, contre la guerre. Hein. Moi, j'avais mon fils qui n'était pas vieux, il tenait un drapeau, une banderole. On était très, très investis contre la guerre. Il faut dire qu'on avait même pu participer à un collectif contre la guerre, y compris avec le Parti communiste. Hein, bon, pas que, hein, y avait des syndicalistes, bien sûr, mais le Parti communiste, voilà. Aujourd'hui, contre la guerre qu'il y a en Ukraine, le Parti communiste, d'abord, il n'existe quasiment plus, et en plus de ça, il ne peut pas prendre position parce que sa relation avec la Russie l'en empêche. Là, on avait réussi des belles mobilisations. Ça, c'est une raison. Mais la deuxième raison, la plus importante, c'est qu'on venait de comprendre qu'on utilisait le corps des femmes comme arme dans la guerre. Et ça, on l'avait peut-être un peu pensé, mais à ce point-là, jamais. En ex-Yougoslavie, le viol acquiert une dimension de purification ethnique. Alors, on a connu à d'autres endroits, hein, et puis aujourd'hui, que ce soit les Ouïghours ou que ce soit ce qui se passe dans la République démocratique du Congo ou je ne sais pas où. En tout cas, bien sûr qu'il y a aussi des purifications ethniques. Mais là, c'était à grande échelle. Et c'était contre des populations musulmanes où on pensait, où les militaires pensaient que en les violant et en leur faisant donc des gosses, on allait perdre la notion de religion musulmane parce que ça serait un bâtard qui pourrait pas être musulman, quoi. Hein? En plus, c'était un enfant du viol, donc il pouvait pas être musulman. C'était ça. Et puis, l'autre chose qui était aussi importante, c'est qu'une fois que la femme musulmane a été violée, eh bien, elle était rejetée de sa communauté. Et qu'on ne s'y attendait pas à ça. Je crois, sincèrement, on ne s'y attendait pas. Nous, en France, on est tellement habitués. Quand une femme est violée, d'aller vers elle pour lui apporter notre secours, notre aide, notre soutien, qu'on n'imaginait même pas qu'elle puisse être rejetée. Mais on sait très bien que même en France, ça a existé, ça. Mais allez, on l'avait mis de côté. Là, on l'avait en pleine gueule, quoi.
Voilà. Et puis voilà. À grande échelle, hein.
Et à grande échelle.
C'était pas un truc que tu passais comme ça par hasard à tel endroit. Hein.
Voilà. Et elle écrit, dans l'imagerie nationaliste et militaire de ce conflit, on retrouve la double image de la femme, la maman et la putain. Voilà. Quoique, La mère procréatrice de chair à canon n'en est pas moins brutalisée par celui qui revient du front et la menace de son arme. Parce que ça, c'est dans toutes les guerres, l'homme, quand il revient à la maison, bah, il veut le repos du guerrier. Hein, et puis, il va brutaliser sa femme. C'est toutes les guerres, il se passe les mêmes choses. Hein. Et du coup, on a eu des foyers, elle le dit comme ça, les foyers pour femmes battues sont assaillis par de nombreux appels. À Zagreb, il y a une recrudescence de femmes agressées dans la rue. Donc, pas simplement par la guerre, mais par les conséquences de la guerre, hein, par la violence des hommes. La putain, femme ou enfant de l'autre, conquise et violée, devient procréatrice. Le nombre de témoignages de femmes qui ont subi ou assisté à des viols amène à conclure à l'utilisation du viol collectif comme tactique pour institutionnaliser la purification ethnique et renforcer le conflit. Toutes les femmes sont concernées, mais plus encore les femmes et les jeunes filles de la communauté musulmane. Voilà. Et ça, ce texte-là, il a été fort dans le mouvement anarchiste. Et moi, je sais d'avoir écouté Nelly à ce moment-là. J'étais antimilitariste, mais là, j'ai vu une autre dimension se développer dans mon antimilitarisme. C'est aussi penser aux femmes, aux enfants, aux jeunes hommes, bien sûr, aux hommes, à tout le monde, mais ne pas oublier les femmes et les enfants, quoi.
Oui, mais hein, ce que tu décris, malheureusement, ce que tu décris, enfin, tu l'as un peu dit dans ton introduction, ce que tu décris là, dans la période de Yougoslavie, alors, je ne sais pas si on en est plus conscient aujourd'hui, mais en fait, malheureusement, on le retrouve dans d'autres conflits. C'est, moi, je ne sais plus sur quel pays j'ai lu, bon, c'est exactement ce que tu décris. Et c'est vraiment, on viole, et puis, comme ça, on récupère un enfant, à la limite, la femme, soit on la garde, soit on la met de côté. Comme tu dis souvent, elle est rejetée en plus pour sa communauté d'origine. Mmh. Donc c'est des situations épouvantables et quand, malheureusement qu'on ne trouve pas qu'en Yougoslavie, même si c'est peut-être à l'époque, il y a une prise de conscience peut-être pour la proximité géographique, la possibilité de plus d'informations si tu veux. Mmh. Et, mais bon, en Afrique, et puis j'ai encore lu des choses, je ne sais plus sur quel pays, quoi, c'est exactement la même chose qui est écrite. Quoi. Mmh. C'est vraiment quelque chose de collectif. Quoi. Mmh. C'est pas tel individu, c'est le méchant, etc. Il y en a sans doute. Mais là, c'est un choix qui est fait, c'est un choix politique en fait, d'utiliser la femme vraiment comme... Je sais pas, c'est même pas un objet, quoi. Je sais pas comment dire, un relais pour avoir des enfants qu'on met de son côté, quoi. Voilà.
Et dans son article, elle dit que dans cette guerre, c'est 90% de la population qui est touchée, qui est la population civile. 90%. C'est une guerre où il y avait finalement pas trop de soldats, hein, mais c'était surtout la population civile, ce qui est le cas aujourd'hui partout. À Gaza, à Gaza, c'est que la population civile. Le Hamas guerrier, c'est important sur le symbole, mais c'est pas important sur le nombre. Hein. Quand on a autant de morts, là, on pense même qu'on est monté à 100 000 morts hein, en peu de temps. Mais c'est aussi aujourd'hui. Et j'ai un chiffre que j'aimerais bien dire. L'année 2023 est l'année qui a connu le plus grand nombre de conflits depuis 1946. Mmh. Au moins 59 conflits dans le monde, hein, répartis dans 34 pays. On a 34 pays qui est le siège qui sont le siège de la guerre. Je trouve ça incroyable. Et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le continent africain qui est le plus impacté. 28 conflits, l'Asie 17, le Moyen-Orient 10, l'Europe 3, et les Amériques sont concernées par 3 conflits. Donc là, on est focalisé évidemment sur la bordure de l'Europe avec l'Ukraine et puis la Russie. On est focalisé sur le Moyen-Orient avec Gaza, mais il faut penser au Soudan, faut penser et puis à ce que Jules Falquet décrit très très bien, c'est toutes les guerres de basse intensité. C'est avec des milices qui vont terroriser les femmes, par exemple, et les enfants, pour pouvoir terroriser l'ensemble de la population après. Voilà. Donc, les guerres à basse intensité, les narcotrafiquants, c'est aussi une guerre. Une guerre contre les pauvres. Hein. Mmh. C'est toujours une guerre contre les pauvres, de toute façon. Hein. Mais 59 conflits pour l'année 2023, c'est énorme.
Oui, oui. De toute façon, ton livre, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, le montre bien, parce que en fait, il y a pas mal d'exemples dans des pays divers. On va en parler que de quelques-uns. Peut-être, on fait une pause musicale, Monique. D'accord.
Puisque le feu, la mitraille, puisque les fusils, les canons font dans le monde des entailles, couvrant de mort les plaines et les vallons. Puisque les hommes sont des sauvages qui renient le mot fraternité, femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri de ton sein, mourra dans l'horrible souffrance, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi tous ces murs, ces barrières? Pourquoi d'éternels réfugiés? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus, pour votre gloire, donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans.
La grève des mères, interprétée par Dominique Grange, dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc toujours avec Hélène Hernandez, le livre s'appelle « La guerre contre les femmes contre la guerre ». Alors je crois que je ne l'ai pas dit au début aussi peut-être. C'est aux éditions du Monde Libertaire, collection Ici et Maintenant. D'ailleurs pour ceux qui nous suivent un petit peu, vous avez vu qu'il y a beaucoup de livres qui sont produits dans cette collection. Et je vous invite à aller voir un petit peu sur Internet, je pense qu'on doit trouver la liste. Voilà, donc... on avait dans une première partie qui correspondait à Antimilitariste ancré dans l'histoire. Je propose qu'on voit la deuxième partie, quelques textes aussi rapidement présentés sur la guerre contre les femmes. Donc ce que je t'avais proposé, c'est un article du Monde Libertaire de mars 2023. je ne sais pas, je crois que c'est le titre, enfin, en tout cas, je l'avais noté comme ça, « La population civile dont les femmes au cœur des crises et des guerres ». Enfin, tu l'as un petit peu abordé, mais peut-être un peu plus.
Oui, oui, oui. Alors, le deuxième chapitre, lui, il comprend plusieurs textes. Et il s'intitule « La guerre contre les femmes, violence militaire, patriarcale, religieuse et capitaliste ». Et... pourquoi les quatre mots sont mis? C'est parce que on aura après des textes qui correspondent à ça.
Hein.
Qui illustrent. Parce qu'il n'y a pas que la violence militaire, il y a la violence patriarcale, religieuse, et puis, il ne faut pas oublier, capitaliste dans tous les cas de figure. Alors, la population civile au cœur des crises et des guerres, c'est ce qu'on vient de dire, 90% de la population concernés par les guerres. Aujourd'hui, c'est de la population civile. Et quand on dit population civile, ça veut dire quoi? Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes qui sont malades, qui peuvent pas partir au front. On voit bien, même en Ukraine, le gouvernement ukrainien cherche à recruter des jeunes et des moins jeunes. Ceux qui pensaient qu'ils étaient chefs de famille, comme on dit, donc avec enfants en bas âge, ils échappent pas non plus, ils partent. Et on l'avait bien vu dans d'autres guerres en France. On commence toujours par prendre les plus jeunes, et puis petit à petit, à force qu'ils meurent ou qu'ils soient blessés, on va chercher les plus loin. Mais on ne va pas chercher les femmes. En fait, les gouvernements ne vont pas chercher les femmes. Parce qu'ils savent aussi que les femmes s'occupent, ce que j'ai dit, des enfants, des malades et des personnes âgées. Or, la population civile, elle reste sur place. Elle va se déplacer. Alors, on va reprendre l'exemple de l'Ukraine. Elle se déplace. Beaucoup d'enfants sont partis dans des régions où il y avait moins de risques. Il y en a qui ont fui, mais maintenant, fuir l'Ukraine, ça devient très, très, très compliqué. Et voilà, donc, la population, elle trinque. Et à Gaza, de toute façon, là, ils étaient enfermés et ils ont trinqué. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce que ça va donner. Même les Israéliens qui embauchaient des Gazaouis pour leur propre industrie, pour leurs services et tout, là, il y a plus de génération à venir. Ils ont tué tellement d'enfants et de jeunes que c'est fini, ça. Pour les Gazaouis, évidemment, c'est pire parce que on a des femmes, là je viens d'écrire un autre article qui n'est pas dans le livre parce que on vient de le découvrir, mais des femmes qui accouchent à Gaza, mais c'est l'horreur quoi. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, comment on fait pour réanimer le bébé ou la femme dans ces conditions-là? L'hygiène, sans eau, on fait quoi? Et sans électricité aussi, on fait quoi? Et puis, des fois, c'est dans les décombres. Il n'y a même pas de toit. Des fois, on est dans des caves pour accoucher. Et il y a énormément de femmes qui font des fausses couches. Voilà. Or, même si elles sont en guerre, ces populations-là, la naissance d'un enfant, ça a été voulu en général. Aujourd'hui, c'est voulu. Et c'est des drames. C'est des drames plus pour la mère que peut-être pour le père, mais c'est des drames pour tout le monde. C'est-à-dire des risques aussi d'avoir des troubles psychologiques graves. On le sait, même en temps de paix, une femme qui perd un enfant à la naissance, tout ce que ça peut occasionner dans sa vie après, eh bien là, c'est tous les jours. Surtout que c'est une population gazaoui qui faisait beaucoup d'enfants et il y avait énormément de naissances par jour.
Et puis si on imagine aussi les enfants qui survivent dans des conditions, ça doit être... c'est plus qu'un traumatisme, je ne sais même pas comment on peut dire ça. Tu nais dans un dans cet environnement que tu viens de décrire.
Ouais, ouais. C'est les décombres. Moi, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais on le voit. C'est que des ruines. Ah, oui. Que des ruines. Ah. Voilà, c'est... Alors, là, par exemple, dans la population civile, il est dit que je reprenne bien, la population civile n'est jamais épargnée. Le dernier rapport de l'ONU, donc l'ONU, c'est pas les plus révolutionnaires qui soient, hein, rapport de l'ONU estime à 339 millions de personnes qui ont besoin d'une forme d'aide d'urgence, soit un habitant sur 23 dans le monde. Voilà, c'est quand je disais 59 conflits, si on rapporte ça à un habitant sur 23 dans le monde, on prend une classe d'enfants à l'école, ils sont à peu près 22, 23, 25 maxi, hein. Il y a un enfant qui a besoin d'une aide d'urgence. C'est pas bouffé, hein. C'est tout. Il y a rien, il y a plus rien pour lui. C'est ça que ça veut dire aussi, hein. Voilà. Donc l'aide humanitaire. Alors en plus, elle peut pas toujours arriver. On l'a vu à Gaza, mais on le voit aussi dans d'autres régions. On le voit aussi ce qui se passe en Iran ou en Afghanistan, l'aide humanitaire, quand on interdit aux femmes de participer à des ONG humanitaires, parce que les femmes doivent être, d'une part, voilées, ne pas parler, doivent rester à la maison, pas dans l'espace public. Donc si on retire les femmes des ONG, il n'y a quasiment plus personne.
Oui, d'ailleurs, voilà. J'ai vu dans un des textes, il y a trois ONG qui, dans ces conditions, on ne peut plus travailler.
ne peuvent plus travailler. Et puis, on est aussi sur des populations où une femme ne veut pas être soignée par un homme, parce que voilà, c'est une tradition, mais un homme veut pas être non plus soigné par une femme. Si on n'a pas des ONG le personnel des ONG qui est quand même volontaire, hein, et c'est beaucoup beaucoup de femmes. Beaucoup aussi. Elles ne peuvent pas intervenir, si ces ONG ne peuvent pas intervenir, il n'y a plus d'aide humanitaire. Voilà. C'est ça aussi. Alors moi, je cite quelques pays où la vie ne tient qu'à un fil. La République démocratique du Congo, j'ai mis SIC derrière démocratique, hein, parce que j'ai du mal à parler de démocratie, voilà. Le Sud-Soudan, la Corne de l'Afrique, le Yémen, le Nigeria, le Sahel. Au Moyen-Orient, c'est la Syrie, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Liban. C'est aussi l'Afghanistan, l'Iran, c'est aussi la Birmanie. Haïti, et puis l'Ukraine, et puis plein d'autres. Hein, je suis loin d'avoir cité les 59 pays qui sont sièges de la guerre. Mais on voit en Haïti, par exemple, on va prendre le blocage du principal terminal pétrolier paralyse l'économie pendant que les écoles sont fermées et qu'une nouvelle épidémie de choléra apparaît. On voit tout là. L'économie qui est paralysée, les enfants ne vont plus à l'école, et en plus, il y a une épidémie de choléra. C'est une société qui est foutue, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Et évidemment, on peut parler des Rohingyas, on peut parler de tous ces peuples qui, dans leur propre pays, ou dans le pays dans lequel ils vivent, c'est pas leur pays forcément, mais dans le pays dans lequel ils vivent, eh bien, on empêche les enfants d'aller à l'école, on viole les femmes, on les oblige à se marier avec la population locale pour casser les cultures de la communauté. Enfin, voilà, c'est...
Malheureusement, c'est la réalité.
Bon, et c'est les filles et les femmes qui sont au cœur de tous les dangers, le plus, puisque c'est elles qui sont les plus agressées.
Peut-être une pause musicale, Monique, oui.
Ah, eh bien, il semblerait qu'on ait un petit souci de démarrage avec la pause musicale. Eh ben, je vais en lancer une autre. Hein. Et puis, celle-là, on va intervertir. Attention.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et alors, comme j'écorcherai trop le titre de cette superbe chanson, je vais demander à Hélène de nous raconter ce que c'est.
Alors, c'est Bibir Quintana qui vient de chanter cette chanson. Le titre en français, c'est « Chanson sans peur ». Canción sin miedo, et elle parle de féminicide, hein, et elle exhorte les femmes à dire ce qui leur arrive en termes de violence, à ceux qui et celles qui restent, de dénoncer les féminicides, voilà. Et qu'il faut pas avoir peur, il faut le dire. Et c'est la force collective qui fera qu'on fera reculer les féminicides.
Ça tombe très bien, justement, que cette chanson, enfin, tu me diras, c'est pas au hasard, puis c'est toi qui as amené les pauses musicales, puisqu'on va parler, justement, d'un texte, je crois, assez long, sur le titre, je crois, c'est « Féminicide, une histoire mondiale ». Bon, pour les auditeurs qui prendront l'émission en route, je rappelle, on parle d'un livre qui s'appelle « La guerre contre les femmes contre la guerre » d'Hélène Hernandez, qui est avec nous, bien sûr, aux éditions du Monde Libertaire, collection Ici et Maintenant. Donc voilà, le féminicide, eh ben, on en trouve partout dans le monde.
Oui, on en trouve partout. Et
dans l'histoire.
Et dans l'histoire, depuis très longtemps. C'est le travail qu'a coordonné Christelle Tarot, qu'on nous avons invité dans l'émission Femmes Libres, mais qui a été aussi invité dans d'autres émissions de Radio Libertaire. Christelle Tarot a réussi à rassembler, je ne sais pas combien, des dizaines de spécialistes des violences faites aux femmes. Et elle parle donc d'un continuum féminicidaire dans le monde entier. C'est-à-dire que une violence en entraîne une autre qui est de plus en plus grave. Voilà. Quand c'est impuni, quand personne n'arrête, c'est pour ça que la chanson de Bibir Quintana était importante aussi. C'est-à-dire que quand une violence est exercée et que personne l'arrête, bien la personne qui violente, eh ben elle fera plus la fois d'après, etc. Et elle le fera même en groupe. Et ça peut être même institué dans certains pays. Voilà. On pense à Ciudad Juárez, bien sûr, à la frontière mexicaine, avec toutes ces femmes qui sont non seulement violées, tuées, mais sont démembrées, elles sont exposées tout le long de la frontière. Ce sont des jeunes femmes qui travaillent dans les usines du coin, là. Par pauvreté, ben, elles acceptent d'y aller et elles terminent tard le soir en car et elles peuvent se retrouver dans des guet-apens absolument incroyables. Mais pourquoi ? C'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on exhibe des bouts de femmes, comme ça, des corps de femmes, sur... moi, j'ai vu des photos, c'est abominable, hein, sur la route, eh bien, ça fait peur, forcément, alors, aux enfants, hein, ça c'est évident, mais ça fait peur à toute la population. Ça fait peur aux hommes, ça fait peur aux plus âgés, voilà, et on tient la population. Et ça, c'est une autre guerre. C'est pas parce que là on a parlé jusqu'à présent de ce qui se passait pendant les guerres, mais quand on voit que toute l'année il y a des femmes qui sont dans la crainte de ce qui peut se passer en termes de féminicide, eh bien c'est aussi une guerre. C'est aussi une guerre parce que qui sait qui a formé les milices sud-américaines, c'est les anciens de l'OAS, hein, qui ont fui forcément parce que sinon ils étaient recherchés. Ils sont partis en Amérique du Sud. Et puis, ben voilà, comme ils maîtrisaient
des compétences,
voilà, ils maîtrisaient des formes de torture et tout ça. Ils ont formé les militaires, mais aussi des milices. Et c'est facile de dire que c'est une milice et que c'est pas l'armée qui fait ça, mais enfin, ils font la même chose. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, on a aujourd'hui des milices, alors que ce soit pour la drogue, que ce soit pour la prostitution, que ce soit pour les armes, on a des milices qui aujourd'hui ont été formées par des gens de l'OAS, donc ils savent faire, quoi. Hein. Mais indépendamment de ça, dans le livre dirigé par Christelle Tarot, on voit de tout temps parce qu'il y a une iconographie absolument extraordinaire, hein, on voit de tout temps des formes d'emprise sur les femmes. Par exemple, des femmes qui ont une muselière. Pourquoi une muselière ? Parce que d'abord, ça fait peur. Hein, donc, il n'y a aucun homme qui va venir se frotter à une femme qui a une muselière. En plus, elle ne pourra pas manger. Elle ne pourra pas crier. Mmh. Elle ne pourra rien faire. Donc, elle est complètement sous l'emprise de la personne qui lui a mis la muselière. Moi, je ne savais même pas que ça existait, ça. Je savais qu'il y avait des ceintures de chasteté, mais je ne savais pas qu'il y avait des muselières.
Et s'il n'y a pas un côté, comment dire, c'est même pas une humaine, quoi. C'est un animal.
C'est un animal. Voilà. C'est même... Ouais. C'est même plus bas qu'un animal, peut-être. Oui, oui. Hein, dans des populations paysannes où un troupeau est important parce que c'est la survie de la communauté, si on traite une femme de cette façon-là, c'est qu'elle vaut moins qu'une vache ou moins qu'un animal. Quoi, hein, voilà. Le livre de Christelle Tarot, bon, qu'on a vendu à la librairie Publico, en ce moment je crois qu'il n'y est plus, mais vous pouvez le commander, hein, si vous passez par le 145 rue Amelot à Publico, vous pouvez toujours le commander parce que c'est un livre extraordinaire. Et alors, les chiffres, moi je crois qu'ils sont en dessous du... Mais comme ce sont des scientifiques... ces femmes, c'est surtout des femmes, hein, qui ont écrit dans ce livre, elles donnent des chiffres où il y a des preuves. Mais je pense qu'il y a plein de preuves qu'on n'a pas sous la main. Parce qu'elles disent qu'il y a 47 000 femmes et filles qui sont tuées par leur partenaire intime ou un membre de leur famille dans le monde en 2020. Hein, soit toutes les 11 minutes. Déjà, toutes les 11 minutes, on se représente. Hein, là, ça fait une heure qu'on a démarré. Voilà, il y a déjà presque une dizaine de femmes qui ont été tuées. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. J'ai lu...
De toute façon, il n'y a pas des informations dans certains pays détaillées. Hein.
Non. Et puis, ça nous amène à quoi? Il y a 200 millions de filles qui manquent sur le continent asiatique. 200 millions, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Du fait des féticides organisés depuis des décennies, c'est-à-dire, quand c'est un garçon, ben, il a le droit de vivre, quand c'est une fille, on la tue. Hein, parce qu'on ne peut pas nourrir tout le monde, donc on fait le choix de privilégier dans bon nombre de sociétés le garçon au détriment de la fille. Mais c'était aussi, puisqu'on parle de l'Asie, c'était aussi l'enfant unique qui était imposé en Chine. Hein. Mais là, on a 200 millions de filles qui manquent. Je me souviens d'avoir lu dans Nouvelles Questions Féministes il y a des années qu'il y avait des filles qui étaient raptées dans les campagnes en Chine, qui étaient mises sur des camions, des plateaux, sur les plateaux de camions, et elles avaient une pancarte autour du cou qui mettait le prix de vente. Et il y avait des gens, des mafias, qui vendaient ces filles-là. Pourquoi? Parce qu'on manquait de filles. Alors là où il y en avait, on les emmenait là où ça manquait. Les hommes les achetaient. Les filles, et c'était ça dans l'article, c'était des gamines, elles avaient 13, 14 ans. Hein. Ils pensaient qu'en les achetant, la famille ne viendrait pas rechercher la gamine. Mais en fait, c'est même pas la famille, parce que la famille avait eu l'argent, donc il s'arrêtait là. C'est la gamine qui s'enfuyait. Et pour pas qu'elle s'enfuit, on lui retirait tous ses vêtements et on l'entravait. Et on l'a. Et évidemment que le monsieur qui l'avait acheté, en usait et donc la violait, quoi. Et il y avait quand même des filles qui arrivaient à s'enfuir et qui traînaient comme ça dans la campagne, à poil, et en se cachant, parce que elles savaient qu'elles allaient être ramenées chez leur propriétaire. C'était un propriétaire, hein, c'était pas un mari. C'était plutôt les années 90 quand j'avais lu cet article. Dans le livre, elle précise aussi que ce sont les femmes autochtones, même dans les pays donc riches, hein, on pense au Canada ou on pense aux États-Unis, c'est les femmes autochtones qui sont le plus féminicidées, et pas par leur communauté, c'est par, évidemment, l'extérieur. C'est comme un Kleenex, hein. On se sert d'une femme, on la viole, on se sert, puis après, on la jette. Et pour pas qu'elle fasse des histoires, bon, on la tue, tant qu'à faire. Hein. Alors nous, on parle dans l'émission Femmes Libres toutes les semaines des féminicides en France. Donc en France, c'est la métropole, mais c'est les dom-toms aussi. Et il faut dire que les hommes... Alors les féminicides, c'est, ça veut dire qu'on tue une femme parce qu'elle est femme. Hein. C'est uniquement ça. Sinon,
mais est-ce que, par exemple, on peut citer comme exemple, enfin peut-être tu allais le faire, hein, les sorcières quand même, il y en a eu, je ne sais pas combien qui sont passées. Hein.
Et il y a encore des sorcières en Afrique. Il y a des camps de sorcières en Afrique, bien sûr. Mais les sorcières, alors ça fait partie des féminicides parce que c'était à grande ampleur et sur des tas de pays différents. Hein. Pas tous les pays, mais des tas de pays différents pendant la Renaissance. Hein. On est pas au fin fond d'une jungle. Hein. On est dans l'Occident là. Donc où c'était des vieilles. Enfin c'est l'image que l'iconographie qui nous reste, hein, des vieilles sorcières. Ouais, c'était pas des vieilles sorcières la plupart du temps. C'était des femmes qui étaient libres. C'est des femmes qui voulaient être simplement vivre quoi et libres et qui peut-être avaient fait un enfant avec quelqu'un, d'accord, qui élevait son enfant, voilà. Mais raconter que les sorcières, parce que ça c'est l'imagerie, ce sont des vieilles qui faisaient du feu et qui faisaient la danse de Satan la nuit, hein, ce qu'on a repris d'ailleurs dans les pétroleuses pendant la Commune, c'est de l'imagerie ça, c'est bon, mais ça a permis pour la religion catholique de tuer des milliers de femmes pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il y a encore des sorcières en Afrique, il y a des camps de sorcières aussi. Ce sont des femmes qui ont été expulsées de leur village parce qu'elles ont dit la vérité, parce qu'elles savent des secrets, parce qu'elles elles sont libres, voilà, elles ont été expulsées. Je revenais sur les féminicides en France. Les maris, compagnons ou ex-compagnons qui tuent leur femme, c'est toujours pour des raisons de propriété. C'est au moment, il y a deux moments forts de risque pour les femmes. C'est au moment où elles se séparent de leur partenaire. Lui, il a perdu sa chose.
Perdu son objet.
Voilà, il a perdu son objet.
C'est plus une femme objet, c'est dommage.
Voilà, donc il va casser l'objet. Voilà. Donc il va la tuer. Alors des fois c'est plusieurs années ou plusieurs mois plus tard, mais parce que il va très très mal. Alors voilà. Et puis ça c'est une des situations. L'autre situation c'est quand la femme est enceinte. Et alors là on a quand même du mal à comprendre ça parce qu'un enfant on le fait à deux. La femme est enceinte. C'est vrai qu'elle peut changer au moment où elle est enceinte parce que elle va accueillir un bébé de son propre corps qu'il va falloir apprendre à vivre à trois et non plus à deux dans le couple. Ok, Mais quand même, taper dans le ventre d'une femme enceinte quand, soi-disant, on a été amoureux de cette femme au point de lui faire un enfant, et puis que qu'on est partenaire, quoi. Mmh. C'est pas le gars du coin qui est en mal de relations sexuelles. C'est le partenaire. Bon, on a toujours du mal à comprendre, mais c'est de la même façon.
Et tu dis, ça m'étonne quand même. Et ça a une importance, ce que tu décris, là, le deuxième aspect.
Ah ben, les violences intrafamiliales pendant que la femme est enceinte, oui.
Je ne savais pas.
C'est quelque chose...
Je savais que ça pouvait glisser, mais je ne savais pas que ça avait cette ampleur-là.
Et on pourrait penser que là, il faut fuir. Mmh. Il faut fuir. Bah oui. Parce que quand le gosse va naître, qu'est-ce qui va se passer, hein? Ça va être pire. Voilà. Mais, autre exemple de féminicide, c'était l'école polytechnique, le 6 décembre 1989, là, où le mec, parce qu'il n'a pas réussi le concours de polytechnique, il arrive à polytechnique, il sépare les hommes des femmes, donc on voit bien que c'est pour tuer les femmes, c'est pas, il n'a pas tué comme ça en tirant. Non, il a séparé les hommes des femmes, et puis là, il a tué les femmes parce qu'il n'était pas content d'avoir raté Polytechnique. Alors, dans la presse, on a dit que c'était un fou, pas du tout, puisqu'il avait laissé suffisamment de traces pour dire « je hais les femmes ». Il l'avait écrit, hein, il l'avait hurlé en plus. Donc, ça s'appelle un féminicide aussi. Voilà. Et c'est vrai que des féminicides, bon, on pourrait donner plein d'autres exemples.
C'est quand même un bouquin assez important.
Oui, c'est un gros livre avec une très belle iconographie. Vraiment très très belle, recherchée. Enfin, et il faut. Je parlais des femmes autochtones, mais on peut parler aussi des femmes colonisées, qui sont. Quand le blanc, le patron, se rend compte que d'avoir violé ou d'avoir fait l'amour avec une esclave, il va y avoir un enfant, il préfère tuer l'esclave. Mm-hmm. Hein. C'est pas très compliqué, comme ça, il n'y a pas de trace. Alors, il y a une phrase pour terminer de cet article, hein, c'est « Pour exister, il faut nommer. Pour exister, il faut résister. » Il y a deux choses. Il faut nommer. Il faut nommer ce qu'est un féminicide. Ce n'est pas un homicide, c'est un féminicide parce qu'on est femme. Un homicide, même d'une femme, ça serait dans la rue, on tire n'importe comment, et puis il y a plusieurs blessés. Mmh. Le Bataclan, c'était pas des féminicides, c'était des gens qui voulaient tuer. Hein. Voilà. Tandis que, donc il faut nommer quand c'est une femme qui est tuée parce qu'elle est femme. Et puis, pour exister, il faut résister. Mmh. Et pour résister, il faut être collectivement à se regrouper pour arriver à dire les choses et puis finalement bien sûr aller à empêcher que ça se passe. En France, c'est quand même 220 000 femmes tous les ans qui sont violentées, hein, dans les violences conjugales. Et après, il y a à peu près 150 femmes qui meurent par féminicide. Bon, on pourrait éviter tout ça, quoi. Mais il faudrait éduquer autrement.
D'accord, on va faire pause musicale.
Du haut de mes 20 ans, dans mon uniforme clinquant, je ne suis pas peu fier. Et pourtant, c'est la guerre qui m'attend. Préparé, formaté, suréquipé, entraîné, éduqué pour tuer sans jamais en assumer la moindre responsabilité.
Elle te tourne la tête, te tourne le sang, tu es pas...
sais pas pourquoi, ni pour qui tu es partant. Elle te mangera la tête, te boira ton sang, tu lui prêtes ta vie. Et pourtant, si elle te la rend, c'est rempli de cauchemars, assurément. Depuis la nuit des temps, la guerre. 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 Je ne vais pas me salir les mains, moi je suis un bon technicien. L'ennemi meurt bien au loin. Un point sur mon écran a été atteint. Faut dire que j'ai été bien initié au jeu vidéo. On m'a élevé sans qu'au virtuel. Des monstres poilus s'abjectent, femme et enfant sur le dos est tendu. Elle te tourne la tête, te tourne le sang, tu es prêt à la faire. Et pourtant, tu ne sais pas pourquoi, ni pour qui tu es partant. Elle te mangera la tête, te boira ton sang, tu lui prêtes ta vie. Et pourtant, si elle te la rend, c'est rempli de cauchemars, assurément. Depuis la nuit des temps, la guerre. 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 Ce n'est pas moi qui l'ai tué, moi je ne fais que programmer. Le tir est bien ajusté, la bactérie bien ciblée. Moi je n'y suis pour rien dans cette guerre. Les morts, c'est pas mon affaire, sans jamais avoir les mains sales. Technicien de la mort en rafale. Elle te tourne la tête, te tourne le sang, tu es prêt à la faire. Et pourtant, tu ne sais pas pourquoi, ni pour qui tu es partant. Elle te mangera la tête, te boira ton sang, tu lui prêtes ta vie. Et pourtant, si elle te la rend, c'est rempli de cauchemars, assurément. Elle te tourne la tête, te tourne le sang, tu es prêt à la faire. Et pourtant, tu ne sais pas pourquoi, ni pour qui tu es partant. Elle te mangera la tête, te boira ton sang, tu lui prêtes ta vie. Et pourtant, si elle te la rend, c'est rempli de cauchemars, assurément. Depuis la nuit des temps, la guerre. Depuis la nuit des temps, la guerre. Depuis la nuit des temps, la guerre. Depuis la nuit des temps, la guerre.
La guerre propre, les faits minés. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Je rappelle que nous recevons Hélène Hernandez pour le livre qu'on recommande fortement, La guerre contre les femmes, les femmes contre la guerre, donc aux éditions du Monde Libertaire, collection Ici et Maintenant. Donc pour ceux qui n'ont suivi, vous savez qu'il y avait trois parties, donc on va parler un petit peu de quelques textes qui sont dans la troisième partie. La troisième partie, c'est les femmes contre la guerre, hein, parce que bon, on a beaucoup parlé de qu'elles sont victimes, mais bon, quand même, elles réagissent heureusement, et des fois pas qu'elles. On peut pas non plus laisser continuer comme ça éternellement. Bon. Les féminicides, par exemple, comme on en a parlé hein, juste dans le avant la pause musicale. Donc, je te propose de démarrer pour un texte qui est assez important hein, par son contenu, qui s'appelle « Féminisme, pacifisme et antimilitarisme ». Voilà.
Oui, c'est un texte que j'avais écrit pour la revue Casserole en novembre 2022. C'était un numéro spécial rapport à la guerre. J'avais choisi de parler de deux femmes qui, à mon avis, se complètent et sont très très importantes dans ce qu'elles ont produit. Alors, la deuxième, un peu plus, parce que je l'ai connue et puis j'en sais beaucoup plus sur elle, mais la première est importante aussi, c'est Cynthia Cockburn, et la deuxième, c'est André Michel. Voilà, Cynthia Cockburn, pour moi, c'est important parce que j'ai découvert au travers de ses livres, par exemple, et puis je remercie Margaret Marouani et Chantal Rogerat de me l'avoir fait connaître, hein, parce que elles avaient fait un entretien avec elle en 2003. Voilà, et donc voilà, sans elle, j'aurais jamais connu ce qu'elle avait écrit. Les deux, d'ailleurs, que ce soit Cynthia Cockburn ou André Michel, sont décédés aujourd'hui. Hein. Mais Cynthia Cockburn, elle a évoqué toutes les luttes que les femmes de par le monde ont pu développer contre la guerre. Et moi, je découvrais certaines luttes. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais par exemple... le mouvement de campement de protestation pacifiste contre l'installation de missiles nucléaires sur la base Royal Air Force à Greenham Common. Ça a duré 19 années, de 1981 à 2000. Ça a rassemblé 30 000 femmes. Et en France, on était au courant de rien, quoi. Hein? Voilà. Et ça a mis en évidence les liens entre le mouvement pour la paix et les revendications féministes. Bon, après, elle nous a parlé des femmes en noir, mais ça, on le connaissait dans la guerre en Yougoslavie. Mais moi, j'avais aussi découvert, bien avant cette lecture-là, ce qui s'était passé en 1915, quand, en plein milieu de la guerre, près de... 1100, je crois, à peu près. Enfin, j'ai écrit plus d'un millier, mais c'était 1100 femmes venues de 12 pays différents pendant la guerre, hein, qui se réunissent à La Haye entre le 28 avril et le 1er mai 1915 pour envisager des actions pour mettre fin aux opérations militaires. Voilà. Les femmes qu'on dit qu'elles sont enfermées chez elles, qu'elles sont fragiles, elles sont ceci, cela, ben elles trouvent quand même le moyen de se déplacer jusqu'à La Haye, hein, avec des moyens difficiles, parce que pendant la guerre, traverser les frontières pour y arriver, c'est pas simple. Mais voilà, elles ont... Et à partir de ce mouvement, par exemple, 1915, c'est important, ça, parce que il y a eu donc la Ligue internationale pour la paix qui a été créée en 1915. Nous, on avait reçu ici une très vieille dame, ben, j'ai oublié son nom, qui en faisait encore partie. C'est une ligue qui existe toujours, quoi. C'est, voilà, c'est et qui lutte aussi contre la militarisation et contre tout ce qui est nucléaire, hein, parce que elles ont fait tout de suite du lien. Alors, Cynthia Cockburn a parlé aussi de l'accident nucléaire du Three Mile Island en 79. Hein, voilà. Et elle dit que militer pour la paix, c'est transformer le genre. Ainsi, dans les sociétés patriarcales, les rapports de sexe nous prédisposent à la guerre et jouent un rôle moteur dans la perpétuation des conflits. Bon, ben c'est ce que veut dire Pinard Selleck par ailleurs. Hein. C'est que tout petit, le petit garçon, ben on va lui offrir des jouets de guerre. La petite fille, des jouets pour s'occuper des bébés et faire à manger, voilà. Donc, elle dit que si on veut transformer la société,
Il faut transformer le genre et dès que les enfants sont petits, il faut leur donner toute possibilité de jouer, de jeu, et qu'on ne les formate pas et on ne les dresse pas à ceci ou à cela. André Michel, c'est différent parce qu'André Michel, elle a voulu expressément vivre à Montreuil dans un quartier algérien, très, très maghrébin en tout cas. C'est elle a fait ce choix-là, hein, pour étudier la famille, les relations familiales. Elle a démarré comme ça, sur la famille, parce qu'elle était, chercheuse, il fallait bien qu'elle ait un sujet, tatarin. Bon, elle choisit la famille. Sauf que quand elle choisit la famille dans un milieu maghrébin, eh bien, elle rencontre la guerre d'Algérie, forcément. Voilà, et à partir de là... C'est elle qui a vraiment inventé cette notion de complexe militaro-industriel. Et elle fait du lien entre le complexe militaro-industriel et les violences à l'égard des femmes. Alors, elle utilise à l'égard des femmes. Moi, j'utiliserais contre les femmes, mais bon, à l'égard, ça veut dire qu'on a des égards.
Des égards.
Mais bon, après... Mais l'expression complexe militaro-industriel, il était d'usage courant dans la presse socio-économique états-unienne, car popularisé par le président Eisenhower dans son discours de fin de mandat en 1961 à la télévision. Mais en France, on ne savait pas ce que c'était. Mmh. On n'en entendait pas parler. Et c'est elle qui va implanter ça dans le mouvement social et féministe. Hein. Elle est morte, elle avait 101 ans, je crois. Mais à l'âge de 80 ans, elle était encore sur les bateaux en Méditerranée. Elle était en train encore de soutenir les Palestiniennes, etc. Elle n'avait pas peur. Elle pouvait aller en Amérique du Sud. Voilà. Enfin, c'est une femme qui n'a pas arrêté. Pourquoi ? Parce que elle dénonce les grands projets hydroélectriques, l'agriculture industrielle, les monocultures forestières, la pêche intensive, etc. Donc, elle fait du lien avec tout ce qui est, bon, ce qu'on a, on appelle aujourd'hui l'extractivisme, hein, mais tous les méfaits du capitalisme, hein, puisque le capitalisme ne sait pas faire autre chose que d'abîmer le monde et d'abîmer la population. Et voilà, elle est fondamentale, quoi, parce que au début elle était pacifiste et elle va changer parce qu'elle elle se rend compte que pacifiste, c'est lutter contre l'armée, ben ça suffit pas pour elle. Il faut lutter contre la militarisation de la société.
Oui, ce qui veut dire, il constate par rapport à une certaine forme d'éducation, on en parlera d'ailleurs avec Pinarcet. Ouais.
Voilà, et contre la militarisation, et pas simplement contre l'armée. Ouais, ouais. Contre l'armée, oui, mais contre la militarisation. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle peut aussi être dans les luttes anti-nucléaires, parce que le nucléaire, c'est la militarisation de la société aussi. Ouais. Voilà. Donc, et puis, elle dénonce très fortement comment on pille le Sud pour nourrir le Nord, le Grand Sud et le Grand Nord, hein, comme on dit maintenant. Hein. Voilà. Alors, je termine cet article avec ce que Jules Falquet nous rappelle. Alors, Jules Falquet, c'est une sociologue française que j'ai invitée aussi dans l'émission Femmes Libres. Elle dit « L'armée produit de la hiérarchie, défend des modèles sociaux qui vont radicalement à l'encontre des intérêts des femmes et des populations civiles. Autrement dit, l'armée mixte ou masculine, de conscription ou de métier, française ou turque, nous fait quotidiennement du tort, nous appauvrit, nous violente, nous détruit, en temps de paix comme en temps de guerre. 26 pays dans le monde ne possèdent pas d'armée. C'est peu, mais c'est déjà un bon début vers la sortie de la barbarie. Mmh. » Donc, ces femmes-là que je viens de citer, elles nous donnent espoir. Mmh. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. voilà, par rapport à ces femmes.
D'accord, peut-être une dernière pause musicale, et puis on va parler d'un autre exemple de femme aussi, qui heureusement est encore en vie.
En direct, l'art de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau, score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro, et King Size est vainqueur à droite de votre écran. Impossible à Marie de remonter un tir contré de Gambetta.
Des amis viennent, je peux les toucher. Je suis triste et émerveillée. Le silence, je garde le silence. J'habite là, je le peux. C'est la dernière maison de la terre. À l'intérieur, il y a des arbres, de l'herbe, des ruisseaux. Dehors, du carreau, des murs, du béton, sur toute la terre. Tu n'as pas froid. La terre va encore se refroidir.
Eh bien, on aurait aimé écouter Brigitte Fontaine, Patriarcat jusqu'au bout, mais cette chanson fait presque 7 minutes. Là, c'était vraiment trop pour aujourd'hui. Vous écoutez Trop Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Donc une dernière séquence avec Hélène Hernandez autour du livre La guerre contre les femmes, les femmes contre la guerre aux éditions du Monde Libertaire, collection Ici et Maintenant. Donc je propose que tu nous parles maintenant d'une autre femme qui est plus contemporaine, en tout cas je pense qu'on connaît quand même un petit peu parce que tous les misères qu'elle a avec, avec la Turquie, le gouvernement turc. D'ailleurs, peut-être tu pourras nous parler des derniers événements. Donc, en tout cas, je crois qu'il y a deux textes, d'ailleurs, qui parlent de Pinar Selex de mémoire. Enfin, je ne suis pas certain, mais tu veux savoir mieux que moi, dans le livre. Il n'y a pas deux endroits où tu en parles.
Si.
Voilà. Bon, donc, je te propose si tu nous parles. Bah,
c'est quelqu'un d'important, Pinar Selex, parce qu'elle se dit anarchiste. Hein. Même si elle n'est pas, elle n'est pas que anarchiste, elle est libre surtout. Voilà. Elle est libre.
Est-ce que tu as l'occasion de la rencontrer?
Ah oui, plusieurs fois. Oui,
d'accord.
Oui. J'ai même passé plusieurs journées avec elle.
D'accord.
Donc j'ai eu vraiment l'occasion de, et puis elle est venue aussi dans l'émission plusieurs fois ou par téléphone, parce que maintenant elle est sur Nice, ou par téléphone ou de visu. Hein. Mmh. Alors, Pénard Sélec, c'est intéressant ça, ce personnage, parce que elle, du coup, elle nous démontre comment un gouvernement, un pays autoritaire peut fabriquer du non-droit. Quoi. Mmh. Voilà, à l'aise. Alors, elle, ça fait 27 ans qu'elle est accusée d'être à l'origine d'une explosion dans un marché aux épices d'Istanbul, alors que il a été clairement établi que c'était une bonbonne qui avait de gaz qui avait explosé. Bah, ça peut arriver avec la chaleur, voilà. Mais il fallait trouver des preuves. Donc, quand on l'a mis en prison, on l'a torturée pour que elle dise, et c'est là le problème, qu'elle dise quelles étaient les personnes qu'elle avait interviewées pour faire son travail de sociologue. Et elle avait été interviewée des militants kurdes. Et alors ça, en Turquie, c'est pas possible.
Ah oui, oui,
c'est pas possible. Alors, faut dire que Pinar Selek, quand elle était encore en Turquie, elle savait même pas qu'il y avait eu le génocide arménien. Hein, puisque tout a été effacé en Turquie. Il n'y a pas un nom de rue, un nom de village arménien. Tout a été effacé. Donc, elle ne le savait pas. C'est quand elle est arrivée en France qu'elle l'a appris. Hein. Mais en même temps, elle travaillait avec les enfants des rues. Elle travaillait avec toute la marginalité des homosexuels, des trans et tout ça, pour les aider. Hein. Mmh. Et puis, elle les étudiait aussi, parce que c'est, pour elle, c'était important de voir comment dans un pays aussi autoritaire, on avait des gens aussi marginaux. Mmh. Hein. C'était voir un peu... comment c'était possible. Hein. Donc, voilà, elle avait des terrains, et elle garde toujours des terrains sociologiques qui sont, aujourd'hui, elle est à Nice, et ben elle s'occupe de tout ce qui est migrants entre l'Italie et la France. Hein. Donc, c'est toujours les marginaux, quoi, les pauvres, ceux qu'on exclut. Hein. Ils sont marginaux parce qu'on les a exclus. Hein. C'est pas, ils le sont pas, sinon. Voilà. Donc elle a connu la prison, elle a connu la torture, elle a eu quatre procès qui ont dit que elle était pas responsable de ce qui lui était reproché. Et à chaque fois que elle était acquittée, chaque fois le gouvernement relançait un procès. Hein. Et au bout du quatrième, son père lui a dit de fuir. Parce que il sentait que c'était la fin, quoi. Donc elle a fui en Allemagne. Elle est arrivée après à Strasbourg à l'université. Elle a eu toute la communauté des sociologues en particulier, mais la communauté universitaire l'a vraiment très très bien accueillie par rapport aux travaux qu'elle faisait, quoi. Voilà. Et puis aujourd'hui, elle a été recrutée à l'université de Nice. Il y a toujours le procès. C'est-à-dire le cinquième procès,
voilà.
Il n'a pas eu lieu encore, il ne peut pas avoir lieu, parce que le gouvernement turc maintient, je dis le gouvernement, mais c'est le tribunal, le gouvernement turc maintient qu'il faut qu'elle soit en Turquie pour que le procès ait lieu. Elle refuse d'y aller parce qu'elle va aller tout de suite en tôle. Il y a un mandat Interpol qui est lancé contre elle. Mais jusqu'à présent, il était vide. Il n'y avait rien dedans. Elle a la nationalité française depuis plusieurs années qui lui a été offerte en protection. Hein. Mais quand elle est allée sur la frontière italienne, Elle n'était plus dans la partie où elle aurait pu être protégée. Elle a risqué. Bon, je pense que voilà, c'est son travail. Quoi. Oui. Et le dernier livre qu'elle a écrit, c'est pour répondre à son procès. Alors, ça s'appelle Le chaudron militaire turc. Et dans Le chaudron militaire turc, elle dit bien que c'est un exemple de production de la violence masculine. Elle analyse très précisément le dressage par l'humiliation et la soumission jusqu'à la dépersonnalisation que l'on fait subir aux jeunes recrues. Par exemple, on prend des jeunes recrues, on les met dans une zone aride, en plein soleil, sans eau, sans aucune protection, et on les fait cuire comme ça pendant. C'est pour ça que c'est le chaudron. Hein, on les fait cuire pendant des heures et des heures. Ces jeunes, ils tiennent parce qu'ils savent que dans 3 mois, ils seront plus bleus. Mais ils seront, ils feront partie de l'armée en titre. Voilà. Donc ils tiennent. C'est ça la dépersonnalisation. Quand vous êtes en train de mourir de soif sous un soleil terrible, vous êtes soumis à l'autre. Et ce mode autoritaire correspond, d'après elle, à l'installation du patriarcat violent et militariste qui constitue les fondements de l'ordre social turc. Elle décrit 6 étapes capitales de l'acquisition du statut de sexe dominant. La circoncision. Je ne savais même pas, moi, qu'on circoncisait les Turcs. Mais voilà, la circoncision. La première expérience sexuelle. Alors évidemment, j'imagine que ça sera plutôt vers des prostituées, hein, comme on avait connu en France avant, où papa ou le tonton emmenait le petit jeune au bordel. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est le service militaire. Et on voit bien comment c'est l'humiliation, soumission, dépersonnalisation. Quatrième, c'est le travail, qui continue toujours avec la soumission, bien sûr. Le cinquième, c'est le mariage. Parce que quand un Turc, quand il a fait son service militaire, il est légitime pour se marier. Mais s'il n'a pas fait son service militaire, c'est une femmelette. Voilà, il n'est pas légitime. Donc le mariage, et puis la paternité, évidemment, devenir le pater, voilà. Donc, aguerrir un être à la violence revient à insuffler un sentiment d'insuffisance, de manque de confiance en soi et de ressentiment, et générant méfiance, obéissance, endurance. Voilà, c'est ça le chaudron militaire turc. Et du coup, le service militaire produit des monstres. Et c'est à l'occasion des funérailles du journaliste arménien Hrant Dink, qui a été assassiné le 19 janvier 2007, que la veuve Raquel évoque. Rien ne se fera, mes amis, sans sonder les ténèbres qui font d'un bébé un assassin. Et ces ténèbres, évidemment, elles sont constituées de multiples dynamiques sociales au cours de la vie de ce bébé qui va devenir adulte. Mais c'est vrai que quand on tient un bébé qui vient tout juste de naître dans les bras, on n'imagine pas une seule seconde qu'il deviendra un monstre et un assassin, quoi.
Mais ça, la Turquie, c'est... En plus, ce que tu décris, c'est pas quelque chose qui est récent. C'est vraiment, des dizaines d'années qu'il y a ce fonctionnement-là, que les mecs, on leur met ça. Enfin, ça, tu l'as bien décrit. Mais donc, c'est extrêmement... Je me rappelle, on a fait une émission avec une Française, mais qui connaissait... Anarchiste, qui connaissait un Turc, qui a vécu en Turquie et qui a travaillé, justement, sur, notamment dans les milieux anarchistes, comment ils essayaient de lutter contre ça. Et elle a fait un autre livre, d'ailleurs, on va bientôt l'inviter. Mais elle avait fait un historique, quoi. Ça fait, c'est pas ce que tu décris, là. Enfin, ce que Pinartelli décrit, c'est des dizaines d'années que c'est comme ça, quoi. Alors, comment veux-tu que les... Enfin, c'est important de montrer, parce que comment ça se met en route, quoi. Parce que sinon, on veut dire, ouais, les hommes, les Turcs, c'est tous des méchants. Non, c'est tout un système qui en font des zombies, quoi. Enfin, peut-être pas des zombies, mais enfin, oui, en fait, c'est des zombies. Ils n'existent pas. Ils ont été complètement déformés, quoi, dès la jeunesse, quoi.
Ouais. Et ça, je trouve que Pinard Selleck, malgré l'épée de Damoclès, hein, qu'elle a au-dessus de la tête, elle a une énergie débordante pour militer, absolument incroyable. Et si tu veux bien que je parle aussi
tout à fait,
hein. deux petites secondes.
T'es invité, c'est là pour...
Voilà, du silence de Cybèle.
Oui,
voilà,
c'est pour ça que j'avais mis...
Oui, cette petite gamine yézidi, qui voit son père et sa mère et ses frères et sœurs tués devant elle et qui devient esclave alors qu'elle a 12 ans. C'est un film d'une délicatesse. C'est Ali Yeghaneh qui a produit ce film, qu'il a réalisé. C'est d'une délicatesse et d'une subtilité vraiment très, très forte. Et la petite fille, au bout de plusieurs mois d'esclave sexuelle, eh bien, elle va être achetée par une femme médecin française qui la ramène donc en France, dans une ville moyenne, et qui aimerait qu'elle devienne une jeune fille. Hein? Voilà. Ben, Cybèle, elle va rester dans le silence. Et c'est un film, si vous avez l'occasion de le voir, évidemment, il n'est pas dans un circuit commercial.
Bah, il a quand même un peu marqué.
Plus,
enfin,
peut-être
dans les milieux un peu militants, mais tu sais, j'en ai entendu parler quand il est sorti en France.
Ouais. Moi, je l'ai vu et quand j'ai interviewé Ali Yeghaneh, il ne voulait pas que ce soit le soir de la projection. Il m'a dit, je veux... Parce que c'est un pédagogue, lui. Je veux que tu décantes, voilà, que ça décante en toi, et tu m'interviews après. Et quand je l'ai interviewé, il m'a dit que j'avais extrêmement bien compris le film. Parce que c'est pas simplement une histoire, c'est aussi une façon de filmer. Hein, la rivière qui est peut-être le lieu où les messages de cette petite fille... vont partir vers sa maman qui pourtant est tuée, mais elle imagine que ça peut... l'oiseau qui va peut-être emmener aussi le message. Voilà, enfin, il y a des choses comme ça qui sont très très fortes dans une maison remarquable aussi pour montrer comment on vit aussi en province. Hein. C'est pas une maison parisienne, mais...
Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi à trouver cette... Enfin, j'ai pas envie de dire actrice, mais enfin, cette jeune fille qui joue, je crois qu'elle a mis...
Il a mis, enfin, très il a mis un an à la trouver, et il l'a trouvée à Paris. À Paris, et il l'a apprivoisée, parce qu'il voulait pas lui raconter l'histoire.
Eh oui.
Pour qu'elle le vive vraiment. Et il a été très, très, délicat. J'appelle ça délicat aussi vis-à-vis de cette gamine qui avait l'âge de Cybèle. Voilà. Il y a une autre phrase que je lance comme ça, et puis moi je termine là, sur les déplacés. Et tous les il y a 45% de femmes parmi les déplacés. Hein. On parle toujours des hommes, mais 45% de femmes. Et il y en a une qui dit, ce n'est pas l'eau qui tue, donc c'est ni la Méditerranée, ni la Manche qui tue, ce sont les frontières. Et ça aussi, c'est de dire des phrases comme ça, aussi fortes, je pense que il n'y a pas que les anarchistes qui sont contre les frontières, mais quand c'est les autres qui le disent, hein, à cause d'une réalité, tout simplement parce qu'il y a tellement de gens qui meurent dans l'eau, et les femmes meurent plus que les hommes, tout simplement parce que la majorité des femmes viennent de régions où elles n'ont pas appris à nager.
Oui.
Et qu'en plus, la plupart du temps, elles s'occupent aussi des bébés et des enfants sur le bateau. Et donc, quand il faut plonger dans l'eau parce que le bateau chavire, eh bien, elles prennent l'enfant dans les bras. Et là, il y a beaucoup plus de risques qu'elle soit noyée. Hein. Et quand j'ai écrit l'introduction, j'étais en train d'écouter à la radio... Hein, on était le 3 septembre 2024. 65 personnes ont été secourues au large de Vimereux, dans le Pas-de-Calais, selon la préfecture. Hein. Mais il y a 12 morts. Mais on dit c'est des morts. En fait, c'était des mortes, puisque sur les 12, il y avait 10 femmes et 2 enfants, dont une femme enceinte. Et c'était les plus fragiles de l'embarcation, puisque je viens de m'expliquer pourquoi. Voilà. Et quand on regarde ces 12 morts, ces 12 morts de plus, mais il y en a eu combien voilà. Et c'est les frontières qui créent ça, c'est pas l'eau.
Ben, je vais t'en rappeler le livre et puis je vais te passer ensuite la parole. Je crois que tu veux annoncer quelque chose. Donc le livre qu'on trouve à l'Ébranlement Libertaire, mais j'espère ailleurs, c'est La guerre contre les livres, les femmes contre la guerre.
Non, c'est la guerre contre les femmes.
C'est l'émotion.
Et c'est pas contre les livres, au contraire.
Quoique, la guerre contre les livres, ça existe aussi.
Oui, ça s'appelle Bolloré.
Oui. La guerre contre les femmes contre la guerre. Hélène Hernandez, les éditions Libertaires, collection Ici et Maintenant. Et puis, je te repasse la parole parce que je crois que tu avais quelque chose à annoncer avant qu'on termine.
Et tu peux dire le prix aussi, 10 euros.
Ah oui, je n'avais pas dit.
Et ça, c'est important. C'est un livre de poche qui fait 255 pages, 10 euros. Bravo aux éditions du Monde Libertaire de maintenir un prix comme celui-là. Alors, l'annonce, c'est ce soir à 19h au SACD, 7 rue Balu, métro Place Clichy ou Blanche. Et c'est Michel Rollin qui va présenter À la recherche du Berlin perdu. Voilà, c'est ce soir au SACD, 7 rue Balu, métro Place Clichy ou Blanche, À la recherche du Berlin perdu, de Michel Rollin.
Eh bien, merci Hélène.
Eh bien, merci à toi de m'avoir invité. Merci à Monique pour toutes les musiques passées au bon moment.
Merci Hélène. Et on va se quitter avec Ciudad Juárez, Eric Frasiak. Au revoir.
À Ciudad Juárez, frontière nord du Mexique. C'est tant de la ruesse que se paie le trafic. Flics pourris, mercenaires ou narcotrafiquants planent sur le désert comme une odeur de sang. Sur le Rio Bravo s'allonge la frontière du Texas, El Paso contemple la misère. C'est la mort qui t'escorte, qui souvent te caresse dans la cité des mortes. À Ciudad Juárez, les maquiladoras font des fringues, des télés pour les ricains d'en face, main d'œuvre bon marché. Mais les ouvrières de nuit, le long des entrepôts, savent que la peur aussi est made in Mexico. Plantées dans la poussière, des croix roses et des fleurs se souviennent de l'enfer et des petites sœurs. Pour 5 dollars par jour, c'est la vie que tu laisses, pas de place pour l'amour. Ciudad Juárez.
Maria Isabelle, tu faisais ton travail. De la guerre des cartels, tu t'en foutais pas mal. Pourtant nu dans le sable, on a trouvé ton corps. Certains disent que le diable t'aurait jeté un sort. Les larmes de ta mère lavent les plaies du couteau qui a fait dans ta chaîne 25 fois son boulot. 600 femmes comme toi ont payé la faiblesse d'être femme là-bas. A Ciudad Juarez.
Mi nombre es Julia Caldera. Mi hija se llamaba María Elena Chávez Caldera. Ella desapareció el 20 de junio del 2000 de su trabajo y pues ya no regresó. Yo soy Erika Escobedo García, mamá de Erika Pérez Escobedo. Ella fue encontrada muerta el 23 de septiembre del 2002 de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Homme d'affaires bien barjot, qui veut des snuff movies. Homme de main des narcos, que la mort électrise. Malheur aux journalistes, en mal de vérité. Finiront sur la liste, une balle bien placée. Accord de libre-échange, des marchés qui décident. Pas grand monde que dérange, l'odieux féminicide. Là où brûlent les âmes, sous la chaleur épaisse. Dans la ville qui tue les femmes. Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez. Ciudad Juárez.